Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Ronéline Thibonira.
Mesdames, Messieurs, merci d'être prêts pour suivre nos informations. Oui, organisation syndicale de la MIBA tape du poing sur la table en dénonçant la spoliation des terrains de l'entreprise en Mbujimayi. Cette structure pointe du doigt certaines autorités provinciales qu'elle accuse d'être derrière cette manœuvre. À Mwanda, dans le Congo central, la santé de plusieurs habitants vivant dans les villages autour du site d'exploitation pétrolière de Perenco vacille. Human Rights Watch signale des cas de toux et des maladies chroniques, conséquence de la pollution de l'environnement. Dans la rubrique invitée, nous suivrons les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais diffusée hier soir. Les participants ont analysé les problèmes liés à la multiplication des frais imposés aux parents par les écoles afin de garantir une place à leurs enfants. Ce journal parle de Mbujimayi où le bureau syndical national de la société minière de Bakwanga Miba dénonce la spoliation et les lotissements anarchiques des terrains appartenant à cette entreprise publique. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, les huit syndicats de la Miba appellent la ministre du portefeuille, les conseils d'administration et la direction générale à intervenir de toute urgence pour mettre fin à ces pratiques. Des précisions avec Joyce Masanka.
Le bureau syndical de la société minière de Bakwanga tire la sonnette d'alarme. Une portion importante du patrimoine foncier de la Miba, située le long de l'avenue Fatshi, fait l'objet d'une spoliation. Cette zone comprend l'espace pelouse jusqu'à quelques mètres du guest house Miba en face de l'hôtel Gloria. Selon plusieurs travailleurs résidant sur cette avenue, des responsables autochtones Bakwanga, accompagnés de certains agents des services techniques, se sont présentés sur les sites. D'autres agents affirment que cette équipe disposait d'un document officiel signé par une autorité provinciale leur donnant mandat de réaliser des études de faisabilité et d'élaborer un plan d'aménagement du quartier Kassai dans la commune de Kanchi. Le périmètre concerné s'étendre du guest house Miba situé en face de l'hôtel Gloria jusqu'à l'espace pelouse. Face à ce qu'ils qualifient des spoliations organisées, les syndicats de la Miba exhortent la ministre du portefeuille, le conseil d'administration et la direction générale à prendre de mesures immédiates pour protéger le bien foncé de l'entreprise. Il rappelle que plusieurs autres terrains de la Miba ont déjà été illégalement occupés, tandis que certaines tentatives de spoliation restent en suspens.
Et à Kindu, une vingtaine de nutritionnistes du Maniema sont désormais renforcés en capacité sur des matières liées à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que sur la nutrition assise communautaire. C'est grâce au programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Ces professionnels ont pour mission de prévenir la malnutrition sous toutes ses formes, avec un accent particulier sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant dans une zone fortement confrontée à ces fléaux. En reportage de Florence Kizalunga.
Avec cette formation, les formateurs se félicitent d'avoir transmis des connaissances acquises à ces nutritionnistes afin de faire face à ces fléaux. Docteur Numbi Chikala est l'un des formateurs.
Nous sommes convaincus d'abord par rapport à l'âge, ils vont bien vraiment pratiquer ça dans la communauté ainsi que la nutrition ancienne dans la communauté, c'est-à-dire les changements de comportement, utiliser les matières locaux, les pratiques familiales essentielles dans la communauté, aussi les démonstrations culinaires.
Pour les bénéficiaires, cette formation arrive après plus de 10 ans. Ils promettent de répandre ses connaissances à d'autres prestataires dans toutes les zones de santé du Maniema. Richard Kamunzunzo.
Il y a des nutritionnistes qui traînent dans notre province sans en avoir bénéficié. Nous allons être en mesure d'aller renforcer les capacités de nos acteurs au niveau zonal afin que chacun de nous puisse s'approprier cette approche.
L'organisateur promet d'appuyer et d'accompagner ces derniers jusqu'à l'atteinte de leur objectif. Mathieu Kamuleta, coordonnateur PADRIR Maniema.
Après, ici, PADRIR va distribuer la semence. Cette fois-ci, nous voulons assez que chaque ménage ait au moins son jardin de cage avec le principe des 4P.
Le gouvernement provincial reste regardant quant à la mise en œuvre de toutes les recommandations. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Merci Florence Kizalunga. Je rappelle qu'il est 9h passé de 5 minutes à Kindu. À Bandunduville, la facturation de l'électricité continue de faire grincer des dents. De nombreux abonnés de la Société nationale d'électricité, la SNEL, dénoncent des factures qu'ils jugent trop élevées par rapport à leurs revenus. Le président de l'Union des consommateurs des Grands Bandundu, Didier Aboukani, appelle le gouvernement congolais à subventionner la SNEL afin d'alléger les charges des ménages et de faciliter l'accès de la population à l'électricité. Il est au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Vous savez que l'accès à l'électricité, c'est un droit fondamental à tous les Congolais. Mais malheureusement, sur terrain, ce n'est pas le cas. La ville de Bandundu, c'est une ville administrative où il n'y a que des fonctionnaires. Les consommateurs se voient infliger venant des factures élevées. La SNEL dit que c'est Kinshasa qui envoie la tarification via le ministère de l'énergie et de l'économie. Et nous disons, le gouvernement congolais connaît le montant qu'il paie à ses fonctionnaires. Que le gouvernement puisse prendre en charge ces entreprises-là, pareil étatiques, commerciales, en les subventionnant. Puisque s'il ne le fait pas, cette lourde charge, c'est le consommateur final qui les paye. Ce sont des entreprises qui ont été libéralisées, qui sont devenues commerciales. Ils ont besoin de bénéfices, non? Ils vont faire les bénéfices sans même se référer à la loi. Et l'employeur et l'employé, tous sont des droits et des obligations qui doivent être respectés entre les deux parties. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas sur terrain. Les abonnés, on se plaignent au jour au lendemain. Et la situation ne change pas.
Nous l'avons dit au sommaire, les opérations de la compagnie pétrolière et gazière Perenco présentent des risques importants pour la santé des populations vivant dans la concession pétrolière de Moanda. Nous sommes au Congo central. C'est ce que révèle une enquête menée par l'ONG Human Rights Watch. Selon Agathe Sarfati, chercheuse principale au sein de la division environnement de l'organisation, cette étude s'appuie sur de preuves solides, notamment l'analyse d'images satellitaires ainsi que des images exclusives provenant des sites d'exploitation pétrolière. Nous vous proposons d'écouter Agathe Sarfati dans cet extrait recueilli par Guy Maté.
Ces preuves font état de sources de pollution multiples, notamment de l'air, des sols, mais aussi des sources d'eau. L'air est pollué notamment par le brûlage du gaz à 5 km, voire à 80 mètres des habitations. Nous avons également recueilli des photos et vidéos exclusives d'un site de traitement des déchets de l'entreprise qui montre que l'entreprise brûle les déchets à ciel ouvert, ce qui est particulièrement dangereux pour la santé. Enfin, le manque de maintenance des sites d'extraction fait qu'il y a des fuites de pétrole récurrentes qui polluent les sols et les sources d'eau. Les résidents et les médecins de la concession interrogés nous ont fait part de symptômes de santé particulièrement préoccupants tels que les vomissements, les maux de tête et les vertiges. Mais il y a aussi un risque de maladie grave chronique qui est lié à l'exposition à des métaux lourds. Perenco dispose de données, notamment de pollution environnementale, qu'ils ne veulent pas divulguer. Et le gouvernement congolais a commissionné un audit environnemental il y a plus d'un an et demi, dont les résultats se font toujours attendre.
Nous arrivons au Nord Kivu. L'inquiétude grandit à Butembo face à la récurrence des attaques attribuées à des hommes armés. La dernière en date, survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la commune de Bulengera, a coûté la vie à un étudiant, fait plusieurs blessés et entraîné l'incendie d'un poste de santé. L'hôte civil local appelle les autorités à renforcer la sécurité dans cette partie de la ville de Butembo. Les récits de Martial Papimoukeba.
C'est le quartier Mukuna qui a été ciblé par cette série d'attaques par des hommes armés. Selon la société civile locale, les assaillants ont blessé une femme à l'armée blanche avant d'emporter de l'argent dans plusieurs habitations. Dans les mêmes quartiers, un étudiant a été tué par balle au cours de cette même nuit. À Kehala, une jeune femme enlevée par des inconnus a ensuite été retrouvée blessée. Le poste de santé Zawadi a également été incendié par des personnes non identifiées. Face à cette succession d'incidents, la société civile de Bulengera demande aux autorités de renforcer la présence sécuritaire et de protéger les habitants. John Kameta, son président, appelle les autorités à agir.
Une structure poste de santé Zawadi a été incendiée par des personnes non identifiées et jusqu'à présent les causes ne sont pas encore connues. La société civile partant de ce tableau sombre et très sécuritaire, nous voudrions rappeler les autorités de jouer valablement leur rôle parce que depuis un certain temps, les bandits sont en train de déranger la quiétude de la population.
Les autorités locales annoncent l'ouverture d'une enquête. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Nous parlons des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont mis la main sur un chef des factions Mobondo connues sous les noms d'Odon ainsi que sur sept de ses gardes du corps dans la province du Maïndombé. L'opération menée dans la nuit de samedi à dimanche sur l'axe Louani en territoire de Kwamout a permis cette arrestation. Selon l'armée, ce responsable d'une faction armée avait refusé de répondre à l'appel à la démobilisation lancée par le gouvernement. Les explications du capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Ngemba des FRDC contre la milice Mobondo, joint par Vanessa Kongolo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté le chef Mobondo, connu sous les sobriquets Dodon, ainsi que ses sept gardes du corps. L'opération s'est déroulée dans la nuit du samedi 25 juillet 2026 dans les territoires de Kwamout. Il s'agit d'un ancien élément de la rébellion Mobondo et disciple du Cobra, un autre chef rebelle qui continue à séjourner dans la brousse. Après avoir quitté ses mouvements, il a créé sa propre faction dans l'axe Luani, une zone agricole de Kwamout. Il a instauré depuis un temps un climat de terreur et est impliqué dans plusieurs exactions visant les populations civiles, principalement les agriculteurs. Odon avait refusé de répondre à la démobilisation lancée par le ministre délégué à la Défense, son Excellence Eliezer Ntamboué. Les FRDC ont alors mené une opération spéciale qui a permis sa capture ainsi que celle de sept gardes du corps. Les huit personnes sont actuellement détenues par les FRDC. Elles font l'objet d'une exploitation approfondie avant leur transfert à Kinshasa pour la suite de la procédure.
L'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a quitté lundi l'audience de la Cour de cassation consacrée au dossier Frivao. Il dénonce plusieurs irrégularités de procédure et accuse ses adversaires d'avoir monté un dossier judiciaire contre lui. Malgré son départ, l'audience est poursuivie. C'est un reportage de Jean-Pierre Kanaïmba.
Coup de théâtre à la Cour de cassation. Constant Mutamba a quitté l'audience ce lundi au moment où se tenait l'examen de l'affaire Frivao, dans laquelle il est poursuivi aux côtés de l'ancien coordonnateur du fonds Chansar Boukolela. L'ancien ministre de la Justice affirme que sa citation à comparaître contient des fausses mentions ajoutées par des greffiers. Il dénonce également les refus des autorités judiciaires d'enregistrer une plainte qu'il dit avoir déposée contre l'un d'eux. Devant la presse, Constant Mutamba a accusé ce qu'il qualifie de système mafieux d'être à l'origine des poursuites destinées, selon lui, à obtenir sa condamnation. Il affirme en outre avoir été privé de son droit de soulever des exceptions de procédure avant l'ouverture des débats. Malgré son retrait de la salle, l'audience s'est poursuivie. L'affaire porte sur des décaissements contestés de plusieurs millions de dollars au sein du Frivao. Pour rappel, lors de l'audience du 13 juillet dernier, la Cour avait accordé un délai de 2 semaines aux parties afin de consulter les pièces du dossier avant l'examen du fond.
Mesdames, Messieurs, notez que c'est un reportage de Jean-Marie Kanaïmba et non Kainama. Nous allons tout simplement vous dire aussi au sujet de cette enquête et que les audiences, bien sûr, vont devoir se poursuivre vendredi prochain. On ne sait pas encore jusqu'à là si l'ancien ministre de la Justice prendra part au procès. Détenteur d'un diplôme d'études supérieures en droit, Jean-Cyrise Mirindi s'inquiète de la démarche visant à engager les pays sur la voie du référendum. Il a exposé son point de vue lundi lors de la défense de son mémoire à la faculté des droits de l'université de Kinshasa Inikin. Ses juristes estiment que les chefs de l'État pourrait se présenter à la présidentielle s'il annulait la fraude électorale de 2011 en rétablissant les second tours de la présidentielle en cas d'absence de la majorité absolue des suffrages exprimés, comme l'est stipulé l'article 71 de la Constitution de 2006. Jean-Cyrise Mirindi au micro de Blaise Nogala Mayanda.
Ma thèse vient apporter une solution consensuelle qui permet de couper la poire en deux entre aller dans des extrêmes d'un changement de la constitution pour conserver le pouvoir et la révision et entre annuler une fraude qui vous amène aussi au même résultat. Je pense que le choix est clair. Au stade actuel, pour aller au référendum, les conditions ne sont pas réunies. Le référendum est un droit inaliénable, mais les conditions ne sont pas réunies. Parce qu'il faudrait que tous les qui vous soient dans les giron national. Parce que l'article 5 impose que lorsqu'il y a un référendum, que tout le peuple puisse participer. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle à titre dérogatoire qui permet que le référendum puisse se faire à une partie du territoire national. On aurait consacré la balkanisation de ces pays et justifié le reste. Voilà pourquoi je dis, au lieu d'aller dans des chemins extrêmes, scientifiquement et juridiquement, la voie la plus plausible serait d'annuler cette anomalie constitutionnelle opérée en 2011 par ses retours à la légalité. formalité constitutionnelle. Il y a un principe sacro-saint en droit, la fraude corrompt tout. Si aujourd'hui on annule cet article 71, le compteur revient à zéro et l'actuel chef de l'État, s'il le désire, il peut se représenter. Et là, en ce moment-là, il n'a pas besoin d'une révision constitutionnelle.
Sous la direction du professeur Jacques Joly, les mémoires alors de Jean-Cyrise Mirindi s'intitulent « Le référendum comme expression de la souveraineté du peuple face aux dispositions intangibles de la Constitution de 2006 ».
Actualité internationale.
Les prix du pétrole ont légèrement baissé ce mardi, oscillant autour de leur plus bas niveau en une semaine, dans l'espoir d'une résolution de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, tandis que la faible activité dans le détroit d'Ormuz et les risques de nouvelles perturbations de l'approvisionnement ont soutenu les marchés.
L'invité.
Comme invité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous intéresser à cette question aussi cruciale au sein de la communauté tout entière. Il s'agit de la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. De nombreux parents sont en train de se plaindre autour de la multiplication des frais que de nombreuses écoles imposent pour garantir une place à leurs enfants. Mais ceux-ci fréquentent bien sûr la même école depuis longtemps, mais aussi les frais obligatoires à payer avant le début de la rentrée scolaire pousse certains à se questionner sur leur nomenclature car des écoles justifient ces frais comme étant des acomptes, d'autres parlent de frais de bulletin ou la carte ou encore des frais de médecin ou don. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont analysé ces situations. On les écoute au micro de Guy Maté.
Jean-Pierre Tshiswabantu, vous êtes chercheur et doctorant en psychologie de l'orientation à l'Université pédagogique nationale. Comment vous comprenez cette multiplicité des frais que les écoles exigent aux parents avant la rentrée scolaire?
Au fait, ici, je voudrais, en tant qu'expert, préciser une chose. Au fait, il y a deux exigences. Les exigences pour revêtir la qualité ou la casquette d'un élève, il faut d'abord commencer par confirmer son inscription. Le coût, oui, les parents doivent avoir raison. Moi, j'aurais souhaité à ce que l'État qui réglemente le fonctionnement de l'enseignement démocratique du Congo puisse aussi mettre en place des mécanismes de suivi, parce que tout à l'heure, là, nous aurons des circulaires de la ministre de l'Éducation nationale qui donnent des instructions et des orientations. C'est bien bon de les prendre ainsi, mais il faut aussi des mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement pour s'assurer que le chef d'établissement au niveau des établissements, au niveau plutôt des écoles, ne parte pas au-delà de ce qui peut alors se présenter comme un fardeau, une charge sur les épaules des parents.
On a même l'impression qu'il y a un laisser-aller, hein, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'État puisse, dans sa nomenclature, prévoir des frais pour la confirmation. Lorsque on va jusqu'à taxer aux parents des montants allant de 200 à 300, 400 dollars comme frais de confirmation, est-ce que l'État peut insérer ça dans sa nomenclature? Ou c'est seulement au niveau des écoles que l'on prend de telles initiatives?
Ces pratiques sont beaucoup plus rencontrées dans les écoles privées, mais je crois que ces écoles ne peuvent pas fonctionner comme des électrons libres dans un pays où la loi existe. Les promoteurs, les représentants sont là, je crois qu'ils ont toujours des rencontres avec la hiérarchie et ils essayent de tabler là-dessus. Mais que l'État prouve son efficacité sur le terrain, parce que l'État a l'œil partout et puis il voit partout.
Merci Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire général de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Quelle analyse vous faites de ces frais multiples qu'exige chaque année de nombreuses écoles de la RDC aux parents avant la rentrée scolaire?
Bon, il faut dire que jusqu'à maintenant, à notre point de vue, Madame la Mineta n'a pas encore sorti la circulaire fixant les différents frais qu'on doit payer. Mais déjà, je dois vous dire que les frais dits d'inscription, les frais de confirmation, les frais de suivi à l'examen d'État ou encore les frais pour le retrait du certificat, ce sont des frais prohibés alors. Donc, les parents, en principe, ne devraient pas être sollicités pour ces différents frais. Inscription, confirmer l'inscription. Je crois que nous attendons, nous tous, la circulaire fixant les frais que madame doit prendre. Nous ne savons pas pourquoi ça traîne.
Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer pour sortir de cette situation?
Moi, je crois que dans l'action inspectorale, vous avez la formation, les contrôles et l'évaluation. Mais lorsque vous prenez ces différentes actions qui doivent être assurées par l'inspection de l'enseignement, eh bien, du point de vue de la formation, nous allons tous comprendre que la formation est très insuffisante. Du point de vue des contrôles, eh bien là-bas ça ne marche pas. Du point de vue des évaluations, c'est aussi un véritable rendez-vous manqué. Donc je crois qu'il faut que l'État se remette en question pour ne pas regarder. Nous avons parlé ici de la spoliation des sites scolaires. Mm-hmm. Mais quelles sont ces personnes-là qui sont en train de vendre les sites scolaires? Vous arrivez au niveau de Matongé, vous trouvez des immeubles des Libanais qui sont en train de pousser. Dernièrement, nous avons fait un tour au niveau de Saint-Louis, collège Saint-Louis, en face du camp Kokolo. Eh bien, on est en train de construire. Mais l'espace scolaire, ce sont des espaces qu'on avait réservés pour construire des bibliothèques, pour construire des salles de conférences. Donc, les espaces qui sont au niveau des écoles, ce n'est pas des espaces qui doivent être récupérés par des tiers. Voilà un peu le désordre qui est au niveau du ministère. Et il faut absolument que Mme Lamineta joue son véritable rôle avec, bien sûr, tous ses collaborateurs. Donc, nous disons ici, l'école que nous avons aujourd'hui a des problèmes. Quelles sont les solutions? Eh bien, nous avons besoin de concertations avec l'autorité des tutelles avant la rentrée pour parler de toutes ces questions et donner des propositions en temps utile.
Et c'est la fin de ce journal que vous avez suivi depuis le quartier Nyarubandé. Nous sommes à Keshero à Goma. Merci à vous tous. Ce journal a été coordonné par Richard Kamunga Junior, Jean-Claude Tiala, la partie technique, René Lintibonera, la présentation.